Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Stephen Elsley.
Bonjour, bonsoir et attention à vos oreilles, ça va dépoter car aujourd'hui nous vous emmenons visiter la première grande exposition sur le métal en France. Une musique apparue il y a presque 50 ans sur fond de contestation, des sonorités abrasives, distordues, des images, une esthétique qui prend racine dans le rock mais aussi dans la littérature et le cinéma, la bande dessinée qui entre en résonance avec l'histoire de l'art, classique, romantique et bien évidemment contemporain. Une contre-culture qui se vit en live, irrigue la vie quotidienne des metalheads qui sont souvent d'ailleurs des collectionneurs, et qui a explosé les genres et électrisé un public de plus en plus nombreux. L'exposition Metal Diabolus in Musica, c'est au musée de la musique et la Philharmonie de Paris. C'est jusqu'au 29 septembre et vous m'en direz des nouvelles. Avec nous, un des commissaires de l'exposition, Milan Garcin, bonjour.
Bonjour.
Et le tandem d'illustrateurs et graphistes Fortifem, alias Adrien Havet et Jessie Daubert, bonjour.
Bonjour.
Des solos les plus techniques de Van Halen, sorti en 1978. Van Halen qui est évidemment présent, c'est l'un des virtuoses, on va dire, de la musique métal dans l'exposition, Milan Garcin. D'ailleurs, vous dites que la virtuosité, c'est pas une caractéristique de tous les genres du métal. Pour Van Halen, c'est peut-être une exception.
Oui, c'est l'une des exceptions sous l'appellation qu'on a nommée Guitar Heroes, avec un certain nombre d'autres guitaristes mercenaires, peut-être, pourrait-on dire, de l'histoire de la musique métal. Van Halen, c'est distingué le premier peut-être avec cette virtuosité. Au début, il tournait même le dos à son public pour pas qu'on lui pique sa technique. Et puis après, il a été suivi par d'autres émules qu'il a fait, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai et quelques autres.
Alors justement, parlons un petit peu de technique. Van Halen utilise notamment la technique du tapping. Alors c'est quoi le tapping? Je sais pas qui peut nous expliquer.
Alors,
ça.
Le tapping, c'est une technique qui consiste à appuyer très rapidement avec les deux mains sur les touches de la guitare, de sorte à pouvoir enchaîner un certain nombre de notes en arpège très très rapidement. Et c'était une technique qui avait été développée avant Van Halen. Je crois que c'était le guitariste de Yes qui avait commencé à faire ça. Et puis Van Halen se les réappropriait de façon très virtueuse.
Oui. Bon, il y a aussi le shredding. Alors là, on continue dans le lexique. Hein, pour commencer,
alors le shredding,
on donne quelques bases.
Le shredding, c'est l'ensemble des techniques virtuoses du guitariste de métal, dont le tapping fait partie. Ça consiste notamment aussi à distordre le son grâce à la whammy bar, qui est une espèce de petite barre qui permet de faire bouger le chevalet et donc de créer...
Pour varier la hauteur des sons.
Voilà, exactement, pour varier la hauteur des sons, oui.
Ouais, et puis il y a aussi les pédales d'effet. Alors là, il y en a toute une clique, si j'ose dire.
Hein. Absolument.
C'est le cas de le dire, une clique. Oui.
Tout à fait.
Énormément. Qu'est-ce qu'elles permettent de faire ces pédales concrètement?
Ces pédales d'effet donc, sont nombreuses. Elles se distinguent les unes par rapport aux autres en fonction de l'effet qu'elles peuvent produire sur le son de la guitare. Elles sont placées entre l'instrument et l'amplificateur. Et voilà, peuvent parfois marquer la signature d'un musicien. On pense notamment à Tom Morello, le guitariste légendaire de Rage Against the Machine, avec sa fameuse whammy, qui permet en fait de changer brutalement d'octave dans son son. Et puis voilà, il y a certaines autres pédales d'effet iconiques, la Tube Screamer d'Ibanez, ou encore peut-être la Metal Zone de Boss, qui est la caractéristique du metal scandinave des années fin 80 et début 90.
Alors évidemment, les guitares et les basses sont reines hein, dans l'exposition. Souvent d'ailleurs, elles sont customisées. Vous en présentez de très nombreuses. Quelle est la guitare qui, pour vous, est la plus mythique, Jessie Dobert?
C'est
difficile de choisir, non?
Oui, je pense que c'est la première pièce qu'on voit en rentrant dans l'exposition. C'est la guitare de Tommy Yonni de Black Sabbath, sur laquelle a été un peu né le son métal. Donc c'est vraiment une pièce très précieuse à avoir dans l'expo. Et moi, c'est vrai que je ne m'y connais pas beaucoup en guitare, mais là, vraiment, de voir toutes ces pièces et d'avoir l'histoire derrière, on se rend compte, on est devant des œuvres d'art, quoi.
Oui, clairement, c'est vrai que moi, j'ai été très intéressé par la basse customisée de Chloé Trujillo, qui est donc la sœur de Robert,
l'épouse
de Robert, excusez-moi, donc qui est le bassiste de Metallica. Il y a aussi un tome de batterie de John Bonham de Led Zepp. C'est quoi un tome de batterie?
Un tome de batterie, c'est l'un de ces fûts qui permettent de produire, en l'occurrence ici, un son grave. Ce qui est intéressant, c'est que John Bonham est charpentier de profession, donc le fameux batteur mythique de Led Zeppelin. Et cette batterie lui est prêtée à l'époque par l'un de ses voisins à Birmingham. Et il a l'habitude, donc John Bonham, d'emprunter cette batterie, qu'il rend systématiquement un peu détériorée à son propriétaire, donc Malcolm Cope, qui a un groupe local qui s'appelle Quartz. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer voilà, ces instruments mythiques, parce que l'objet de cette exposition, c'est à la fois de raconter que le métal n'est pas seulement une musique, mais une culture à part entière, avec tout un tas de codes sociaux, tout un imaginaire, et puis évidemment une musique avec ces instruments mythiques, et presque voilà, on pourrait presque les appeler des reliques quelque part. Donc l'enjeu de montrer ce fameux tome de batterie, c'est justement de remonter aux origines même de cette création du son métal.
Oui. Et les origines, ce sont notamment trois groupes que vous désignez comme les mythes fondateurs du métal. On écoute.
Yeah.
Voilà, Black Sabbath et le morceau éponyme, Immigrant Song de Led Zeppelin et Smoke on the Water évidemment de Deep Purple. Trois groupes, trois morceaux aussi vraiment iconiques que vous voulez désigner comme les mythes fondateurs dans l'exposition Milan Garcia. En quoi ces trois groupes, des groupes anglais, nés tous les trois d'ailleurs en 68, sont-ils des pionniers ?
Ce sont des pionniers, en particulier Black Sabbath, parce qu'ils vont créer un son nouveau dans le rock. En fait, à la fin des années 60, le rock se cherche à un son plus violent. On connaît cette histoire extraordinaire de Paul McCartney qui, pour concurrencer les Who, va écrire le fameux morceau Helter Skelter. Il y a aussi les Who qui, eux, sont les pionniers, pourrait-on dire, à rebours de la voix gutturale, notamment avec le morceau Boris the Spider, qui est ensuite repris un certain nombre d'années plus tard par d'autres groupes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont créer avec une nouvelle technique un certain nombre de sonorités qui forment les bases quelque part de ce que va devenir d'abord le hard rock, puis le heavy metal, et puis ce qui sera à la fin appelé metal. Il y a pas mal d'enjeux techniques. Je pense notamment à cette guitare de Tony Iommi qu'on a évoquée à l'instant. Tony Iommi, qui est un ouvrier métallo au départ, a un accident du travail, a le bout des doigts sectionné et pense qu'il ne va plus pouvoir jamais jouer de la guitare. Et puis, on lui parle de l'histoire de Django Reinhardt, évidemment, qu'on connaît tous, et il va donc du coup développer des espèces de petites prothèses au bout de ses doigts, et puis va customiser quelque part sa guitare aussi pour lui permettre de jouer plus facilement, notamment en appliquant une espèce de matière résineuse plastique sur la touche de sa guitare, ce qui va lui permettre de glisser plus rapidement. Voilà.
Si ce mouvement musical nouveau apparaît en 68, c'est une réaction à la culture hippie ?
C'est une réaction à la culture hippie parce que la culture hippie cherchait à répondre aux enjeux sociétaux de 1968, notamment avec un message d'amour, de paix, auquel le métal au départ ne croit pas forcément. Il y a vraiment un enjeu plutôt de se rebeller contre effectivement une société bourgeoise, mais surtout contre un ordre établi moral. Et en cela, évidemment, il y a tout un jaillissement d'une imagerie anti-religieuse, notamment, qui apparaît. Je pense notamment au fait qu'en Angleterre et puis aux États-Unis, très rapidement après, au tournant des années 60 et 70, ce sont deux cultures qui sont vraiment marquées par le christianisme de façon générale. Et c'est l'ennemi, quelque part, facile dans cette opposition, puisque l'Église dicte un certain nombre de mœurs contre lesquelles ces musiciens et puis ces artistes, de manière générale, vont chercher à s'opposer.
Donc, le métal, culture ou contre-culture, Adrien Avé ?
Ce qui d'abord était une contre-culture et devient petit à petit une culture, puisque au début, c'était vraiment des actes de contestation, et maintenant on voit des t-shirts Metallica dans tous les magasins.
Le merchandising est très très présent.
Le merchandising est presque le nerf de la guerre, et c'est ce qui permet le plus souvent à des artistes de tirer profit de la musique qu'ils font. À l'heure du streaming où les ventes de CD ont tendance à chuter, c'est vraiment avec le t-shirt qu'on met du beurre dans les épinards. Mais donc, contre-culture d'abord, de plus en plus culture. Il suffit de voir qu'aujourd'hui, le deuxième plus grand festival de France, c'est le Hellfest. Et ce qui fait dire que le métal, même si à la base est une musique clivante et pas faite pour tout le monde, commence vraiment à se démocratiser et à attirer de plus en plus de foule et à s'ancrer dans ce qu'on appelle le mainstream.
Oui, Milan Garcin, le mot métal d'ailleurs, il vient d'où ? C'est pas très très clair ça, on a l'impression qu'on ne sait pas trop. Ça fait partie peut-être du mythe d'ailleurs.
Ça fait partie du mythe quelque part, vous avez raison. Il y a plusieurs théories comme ça qui disent, chacun se dispute un petit peu pour savoir quel est le qui a la paternité quelque part de ce mot, de William Burroughs et de Heavy Metal Kid jusqu'à Steppenwolf et Born to be Wild, en passant par certains journalistes de la presse spécialisée musicale américaine du début des années 70. Bref, tout le monde se dispute un peu la paternité de ce terme. Ce qui est certain, c'est qu'il apparaît à la fin, il devient vraiment usité à la fin des années 70 pour désigner ce qui était jusque-là le hard rock et ce qui va désigner en fait un ensemble de musique qui commence à se ramifier dans énormément de sous-genres, notamment avec l'apparition du thrash metal au début des années 80. Et le metal devient maintenant le terme générique utilisé pour désigner toutes ces musiques extrêmes dérivé du rock.
Et même en français, sans accent. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
Absolument.
Once Upon a Pale Horse sur RFI, un titre qui figure dans le dernier album du groupe de métal polonais Behemoth, qui sera en concert le 30 avril à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la programmation concoctée à l'occasion de cette exposition Metal Diabolus in Musica qu'on évoque aujourd'hui dans VMDN avec nos invités. Alors Behemoth, dont le nom mais aussi les clips et les performances, Adrien Havé, les performances live, se revendiquent du satanisme. Le diable, c'est une inspiration majeure de l'ensemble de la scène métal.
Le diable, c'est peut-être la personne qui fait partie d'énormément de groupes, tant l'imagerie revient, effectivement, mais d'autant plus pour un groupe comme Behemoth qui se revendique du black metal. Autant de musiciens qui justement, ont rejeté l'ordre établi et les religions, les religions qu'on leur enseignait à l'école ou sur les bancs de l'église. Donc oui, le métal est partout. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche, qui fait réagir et qui inspire autant dans les thématiques que dans les visuels.
Oui, et on s'en rend très très vite compte, puisque dans la deuxième salle de l'exposition, qui est vraiment au centre, au cœur même du parcours que vous avez baptisé l'Imaginarium, le visiteur plonge dans l'univers visuel du métal, et il y a énormément de références à la religion, Jesse Debert, en particulier au christianisme. Pour s'en inspirer, pour s'en méfier, référence au christianisme ou au satanisme d'ailleurs ?
Ah bah, je pense que pour que le diable existe, il faut que la religion soit là. Après, je pense qu'il y a un mélange, effectivement, autant de révérence à cette esthétique qu'un rejet aussi de l'autre côté. Quoi. On a d'ailleurs ce retable des vinyles qui est en plein milieu de l'exposition où on voit que beaucoup de groupes de métal ont utilisé de l'art classique ou de l'art religieux pour en représentation directe sur leur pochette. Après, je pense qu'on va voir dans les titres des albums et dans les paroles de ces albums liés, je pense qu'on est plus à rejeter la religion que... Oui.
Alors clairement, ce retable de vinyle, c'est effectivement intéressant. C'est une sorte de mur avec une cinquantaine de pochettes de disques. Comment vous les avez choisies d'ailleurs, ces pochettes, Mylène Guersin ? Il y a une logique ?
Il y a une logique très simple qui était de se dire que le métal puisait notamment son inspiration visuelle dans l'art classique. Et donc chacune de ces pochettes, effectivement, comme vient de le dire Jesse, reprend des tableaux issus de l'art classique. Alors c'est drôle parce qu'on s'aperçoit...
L'art classique, la Renaissance, le romantisme aussi, il y a beaucoup de références au romantisme.
Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que la plupart de ces références vont soit chercher la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, Jérôme Bosch, Hans Baldungrin, des figures comme celle-ci, et puis... Aussi beaucoup vont s'intéresser au romantisme en peinture. On pense à quelques figures, notamment en France, je pense à Delacroix ou à d'autres. Bref, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on cherchait à faire en faisant ce mur de vinyle, c'était vraiment de raconter que, certes, l'imaginaire du métal se fondait notamment sur le film d'horreur, la bande dessinée, la science-fiction, l'heroic fantasy, mais aussi s'ancrer dans une culture plus classique, avec des références même musicales plus classiques. On voit dans certains groupes qu'on reprend des motifs à Jean-Sébastien Bach, à la virtuosité de Paganini, à un certain nombre de figures comme ça, de cette musique savante. Et quelque part, on pourrait dire que le métal est une musique savante, vu la technicité qu'elle requiert et l'imaginaire auquel elle fait référence.
Alors justement, vous, au sein de Fortifem, Adrien Havé et Jesse Debert, vous avez réalisé pas mal de pochettes, pas mal de visuels. Vous avez travaillé pour Rammstein, Emperor, Queens of the Stone Age, Slipknot, Gojira, Mass Hysteria, Alceste et j'en passe. Dans quel type d'iconographie est-ce que vous puisez vos différentes inspirations? Ça dépend peut-être d'ailleurs pour qui vous travaillez, Jesse Debert.
Oui, ça dépend vraiment beaucoup de pour quel groupe on travaille et puis aussi sur quel projet on travaille. Pour beaucoup de groupes, on va créer d'une part des pochettes d'albums, de l'autre côté aussi des posters pour des festivals où là on va être un petit peu plus percutant sur les visuels. Après,
mais vous travaillez avec des commandes très précises ou vous travaillez à partir des sons, à partir de vraiment de la musique, ou bien c'est vraiment l'univers tel qu'il vous apparaît de façon un peu instinctive qui est à la base d'une création?
Là aussi, oui, ça varie. Il y a des albums sur lesquels on a travaillé pour le visuel principal sans avoir pu écouter le son parce qu'il n'était pas encore fait. On va aussi beaucoup puiser dans les paroles. Et puis après, sinon, c'est vrai que c'est beaucoup par histoire et par ressenti. Soit l'artiste a déjà une émotion qu'il a envie de véhiculer par la pochette, soit ça va être un peu plus à nous de l'amener vers quelque chose et lui dire ce qu'on peut ressentir par sa musique ou par son univers.
Alors, par exemple, Adrien Avey, ça ne se voit pas parce qu'on est à la radio, mais vous portez un t-shirt en ce moment, c'est une de vos créations ?
Oh non.
Non. Décrivez-le-nous et dites-moi de quoi il s'agit, parce que ça m'intrigue.
C'est beaucoup de mauvais goût, c'est un t-shirt du groupe de death metal de l'Arizona qui s'appelle Gatecreeper, et je crois bien que c'est un démon qui fait de la moto au milieu de cactus en feu.
Voilà, donc des démons, il y en a plein hein, dans cet imaginarium et même dans l'ensemble des salles de cette exposition. Il y a une moto aussi, hein, qui appartient-elle, cette moto, Mylène Garcin ?
C'est la moto qui appartient à Nikki Sixx, membre du groupe Motley Crue, et qui a figuré sur l'album Girls, 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 qui a été repeinte depuis cette moto. Mais effectivement, la culture biker a irrigué de façon massive le métal, avec tout un tas d'ornements qui s'y rapportent. On pense notamment à tout l'imaginaire guerrier motorisé, on pourrait dire ça comme ça. Alors c'est intéressant aussi parce qu'on a beaucoup taxé à un moment donné le métal de récupérer un certain nombre de symboles issus notamment de l'Allemagne nazie. En fait, ces symboles étaient des trophées récupérés par un certain nombre de vétérans de la Seconde Guerre mondiale et qui ornaient leurs motos avec ces trophées de guerre, pourrait-on dire, et ils ont été partiellement récupérés par un certain nombre de groupes, mais...
Alors, métal plus bikers, on pense tout de suite tatouage. Le tatouage fait aussi partie, Jessie, de l'iconographie métal.
Oui. Alors, je pense qu'il suffit d'aller au Hellfest pour voir qu'on est sur une population qui va être plus tatouée que non tatouée.
Mais avec quel type de motif ? Là aussi, ça dépend des groupes, c'est extrêmement varié, ou bien il y a quand même des grandes lignes de force qu'on peut dégager ?
Ça dépend des groupes, ça dépend des genres de métal. On va avoir des choses très gothiques, des choses qui s'inspirent aussi un peu du cinéma ou ce genre de choses. Et puis après, on va avoir aussi tout ce qui est la scène métal plus californienne, où là, on va être un peu plus sur des tattoos qui peuvent aussi faire penser aux skateboarders ou... genre de visuel.
Oui, donc effectivement, c'est quand même, c'est quand même assez large. Alors le cinéma, Mylène Garcin, on voit un alien, hein, une énorme, une œuvre de Giger, c'est ça ?
C'est ça, Giger, qui est un artiste suisse.
Oui, c'est l'une des premières pièces que l'on voit en entrant dans l'imaginarium, c'est assez saisissant. Hein.
Oui, en effet, Giger est un artiste qui a beaucoup marqué la scène métal, à la fois parce qu'il a fait un certain nombre d'œuvres qui ont été utilisées par des groupes comme pochette d'albums. Je pense notamment à cette œuvre qui est juste derrière ce fameux alien Satan 1, donc, où on voit un diable en train de jouer au lance-pierre avec un crucifix et qui a été utilisé par un groupe suisse qui s'appelle Celtic Frost. Mais il a aussi été sollicité par un certain nombre d'artistes pour réaliser des objets, des images, mais aussi des objets de scène. Je pense notamment au pied de micro de Jonathan Davis, chanteur du groupe Korn, que nous exposons aussi dans nos salles.
Alors, influence de la bande dessinée aussi, on pense forcément à la revue Métal Hurlant, à Philippe Drouillet, d'ailleurs, qui est aussi présent dans l'exposition.
Oui,
c'est assez impressionnant.
Absolument. Ce qui est intéressant avec cette tapisserie, qui est réalisée d'après une œuvre de Drouillet, c'est qu'elle représente l'île des morts, qui est issue donc d'une bande dessinée de Philippe Drouillet, mais qui est aussi une référence plus qu'équivoque à l'île des morts d'Arnold Böcklin, qui a elle-même servi de pochette d'album pour un certain nombre de groupes. Et effectivement, l'imaginaire de la bande dessinée est très présent. Alors, on parlait du cinéma tout à l'heure, c'est vrai que Black Sabbath tire son nom initialement du nom d'un film, Black Sabbath, qui était le titre anglais d'un film italien de Mario Bava appelé Les Trois Visages de la Peur, et qui était projeté en face de la salle de répétition du groupe. Mais de manière plus générale, voilà, il y a quelques figures tutélaires dans le cinéma et dans la bande dessinée très importantes. Boris Karloff, donc, qui est l'acteur qui joue la figure centrale de ce film Black Sabbath. Et puis, pour la bande dessinée. On parlait de Metal Hurlant, c'est intéressant parce que Metal Hurlant s'exporte aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal Magazine dans les années 77, si ma mémoire est bonne. Et donc voilà, il y a une espèce de concomitance iconographique entre ce qu'écoutent les groupes, ce qu'ils vont lire, parce que ce sont aussi beaucoup des amateurs de bande dessinée, et puis ce qu'ils vont utiliser comme imaginaire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que bon nombre des plus importantes collections de bande dessinée de planches originales sont entre les mains de musiciens de métal. Je pense notamment à la collection de Kirk Hammett, guitariste de Metallica, qui a une extraordinaire collection notamment de Frank Frazetta, Richard Corben et d'autres.
Voilà, et puis côté littérature, on pense évidemment à Lovecraft, on pense à Tolkien. Vous êtes des grands lecteurs aussi, Adrien Havé. Un petit peu. Oui.
On a bien essuyé nos Lovecraft, effectivement. Et il y a beaucoup. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, les musiciens de métal étaient beaucoup des rats de bibliothèque, des adolescents passionnés de science-fiction, d'heroic fantasy.
Ouais.
Et donc, c'est très fréquent, effectivement, d'avoir des groupes qui sont en directe inspiration, des groupes nommés d'après Tolkien. Il y en a beaucoup, que ce soit Gorgoroth, que ce soit Blind Guardian, que ce soit Amon Amarth, ou alors des groupes qui basent carrément toute leur musique sur Lovecraft. Par exemple, on a un excellent groupe de black metal français qui s'appelle The Great Old Ones, qui à chaque disque s'inspire de l'œuvre de Warfield Lovecraft. Et oui, c'est des thématiques qui reviennent beaucoup, puisque les métallos ont grandi avec ça, enfin les métallos ont grandi avec ces œuvres, et aujourd'hui ils dédient quasiment leur production artistique.
Oui, vous pointez aussi l'influence de Baudelaire, Milan Gersin.
Oui, c'est vrai, il y a énormément de poèmes de Baudelaire qui sont chantés. Bon, il y a plein d'exemples qui viennent en tête. C'est difficile d'en choisir un. Rotting Christ, par exemple, dédie l'un de ses morceaux à l'un des poèmes de Baudelaire. Bref, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, quelque part, les enjeux de cette utilisation d'une culture classique ou moins classique sont non seulement pour raconter une espèce de d'imaginaire très spécifique, mais aussi parce que en fait toutes les thématiques que le métal est allé explorer ont déjà été explorées aussi par les artistes à travers l'histoire, et en fait quelque part c'est une sorte de dialogue à rebours qui s'opère entre la musique et les arts visuels, comme quasiment dans toutes les musiques, et dans le métal ne fait pas exception.
Bon, pour en terminer avec l'imaginarium, un petit mot quand même de la guillotine, parce que je pense que c'est aussi un des objets qui marque peut-être le plus le visiteur, guillotine utilisée sur scène par Alice Cooper.
Oui, Alice Cooper, qui, bon, en l'occurrence, la guillotine que nous présentons a été utilisée sur une tournée en 1986.
C'est pas du vrai sang sur la lame.
Hein. C'est pas du vrai sang. Okay. D'ailleurs, je crois que la lame est trop émoussée pour faire quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'imaginaire théâtral qui est dans cette scène musicale. Bon, Alice Cooper commence à se faire couper la tête pour de faux dès le début des années 70, donc dès le début de sa carrière, et puis continue à utiliser ce gimmick scénique de très nombreuses reprises. Alors, et évidemment, la montrer en France, on ne pouvait pas s'en passer, on n'a pas résisté à la tentation.
Évidemment, alors image effectivement extrêmement marquante, image marquante au pluriel, et toute cette culture, cette contre-culture graphique, on la retrouve, on le disait tout à l'heure avec vous, Adrien Havé, sur les produits dérivés. Alors, il y a des exemples assez étonnants. Vous citez par exemple le groupe américain Kiss, qui a développé toute une gamme de produits. Ça va de la sucette pour bébé, enfin de la tétine pour bébé, aux bijoux. Bon, il y a évidemment les vêtements, les affiches, etc. Et puis il y a un salon dans l'exposition. Je ne sais pas si c'est un salon ou une chambre, c'est plutôt un salon, on est d'accord. Je vais essayer de Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce salon a été composé? Les Metalheads, ils vivent dans cet univers-là, dans ce genre d'univers? Il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas métal, quoi.
Oui, je pense que là, on est sur un petit appartement à Paris, peut-être, oui. Où on fait rentrer toute sa collection. Mais oui, le Metalhead, il collectionne beaucoup. Donc, ça se remplit vite. Et là, non, on est sur... Oui, sur un salon qui, effectivement, j'en ai croisé quelques-uns comme ça chez des amis, hein, où on a les vinyles bien exposés. On a quelques tableaux ou illustrations inspirées du métal au mur, et puis on expose fièrement sa collection, quoi.
Oui, c'est vraiment une culture vinyle, la culture métal, aujourd'hui encore, Mylène Garcin ?
C'est une culture vinyle, effectivement, parce que le vinyle est un bel objet. Je crois qu'il y a des statistiques qui expliquent qu'un certain nombre de collectionneurs de vinyles dans le métal ne possèdent pas de platine, mais achètent quand même des vinyles, parce que c'est l'occasion de montrer de beaux visuels. De manière générale, tout ce merchandising, alors on le disait tout à l'heure, est notamment un moyen pour les fans de soutenir les groupes en leur apportant des revenus supplémentaires à ce qu'ils peuvent gagner à travers les concerts, et puis les disques qui se vendent malgré tout de moins en moins. Et puis simultanément, cette collection dans un espace privé témoigne de ce qu'on pourrait appeler la mémoire d'un passé collectif. Il faut savoir que la musique métal est une musique qui se vit à plusieurs, avec une expérience de la scène, du public, avec des danses spécifiques, etc. Et puis exposer ça chez soi, c'est comme se construire une sorte de petit musée personnel où on se rappelle qu'on fait partie quelque part d'une mémoire collective, voilà. Quelque chose comme ça.
Voilà, c'est une musique qui se vit, et d'ailleurs, pour que le visiteur puisse s'en rendre compte, il y a trois écrans géants, hein, on peut se mettre au milieu du visiteur, ça s'appelle le pit, cet endroit-là de l'exposition, trois écrans géants, donc, qui plongent le visiteur dans l'ambiance du Hellfest 2023, qui s'est tenu à Clisson, dans l'ouest de la France, pas trop loin de Nantes,
c'est ça.
Et donc, le visiteur peut écouter, évidemment, de larges extraits du concert, par exemple, Bloody Wood. Bloody Wood, qui est un groupe indien, un groupe de nu metal. Alors, c'est quoi le nu metal, Mylène Garcin ?
Alors, le nu metal apparaît à la fin des années 80, au tout début des années 90, même sous l'influence d'un producteur en particulier qui, à la fin des années 90, avait eu l'excellente idée de demander à des groupes de rap et des groupes de metal de collaborer. Ça a donné des featuring comme Aerosmith avec Run DMC, par exemple. Et puis, on est ressorti une espèce de nouveau genre qui faisait intervenir un certain nombre d'éléments du metal et d'autres éléments du rap, en particulier le scratch, puis le chant parlé, avec quelques groupes pionniers, je pense notamment à Korn, dont on parlait tout à l'heure, et puis d'autres comme Rage Against the Machine, qui pourraient être placés dans cette veine-là aussi.
Alors, le nu metal, c'est une des sept chapelles du metal que nous présente l'exposition, scénographie absolument magnifique. D'ailleurs, d'un bout à l'autre de l'expo, on est dans une iconographie religieuse, on se déplace dans la nef d'une église, et donc on arrive à ces sept chapelles, présentées comme sept alvéoles d'une cathédrale rock avec des vitraux. Les vitraux, d'ailleurs, c'est Fortifem, Adrien. Vous pouvez nous raconter comment vous les avez imaginés, ces vitraux ?
Déjà à la base, quand on s'est fait présenter le projet, c'était les scénographes de l'expo, Achille Racine et Clémence Lassagna, qui nous ont parlé directement de... On parlait tout de suite de nef, on parlait de cœur de cathédrale, on parlait de tout ça. Et on leur a parlé de cette envie aussi de faire des vitraux. Donc ces vitraux, ça a été pour nous l'immense occasion de pouvoir rendre hommage à sept sous-genres de métal. Il y en a beaucoup plus, mais c'est sur cela qu'on s'est dirigé.
7, c'est un chiffre mythique en plus. On n'est pas choisi complètement au hasard, j'imagine. Oui.
Le sacré est partout. Et on a décidé de rendre hommage à autant d'albums iconiques, à autant de groupes iconiques de chaque sous-genre, et également de rendre hommage à une grande personne disparue qui a marqué chacun de ces sous-genres, que ce soit le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, disparu, ou que ce soit par exemple le chanteur de Death, qui a donné son nom à tout le courant du death metal.
Alors que le death metal, c'est quoi la spécificité du death metal ?
Le death metal, c'est une musique qui va décider d'aller dans tous les excès possibles. en termes de violence, en termes de musicalité, en termes d'inspiration aussi. On va s'inspirer directement des films d'horreur ou de l'anatomie, carrément, pour quelque chose de grotesque et de pousser à l'extrême, avec beaucoup de textes qui vont contre les conventions de Genève. On en appelle au gore, on en appelle à des thématiques guerrières, où la violence devient une réelle exutoire. Et c'est tout ça, le death metal, mais quand même fait avec une espèce de générosité dans la brutalité qui rend la scène quand même très sympathique.
Oui, beaucoup plus brutale et peut-être à certaines oreilles beaucoup moins sympathique le black metal. Il y a énormément de polémiques autour du black metal. Mylène Garcin, est-ce que parfois il n'a pas un peu trop versé dans la violence à tout prix ?
Si, certainement. Alors, il y a deux phases dans le black metal. Une première au début des années 80, avec des groupes comme Venom, qui vont être les premiers à donner le nom à ce genre musical, avec leur chanson black metal, tout simplement. Et puis, dans un second temps, en Scandinavie, en particulier en Norvège, à la fin des années 80, début des années 90, apparaît la seconde vague de black metal, avec des groupes comme Mayhem ou Dark Throne. Bref, voilà, toute une série de groupes au nom évocateur. L'enjeu du black metal est à la fois d'aller chercher un imaginaire anti-religieux très marqué, notamment pour essayer de se porter en faux contre ce qu'ils estiment être une destruction de la civilisation pré-chrétienne par les missionnaires chrétiens en Norvège. Et puis, simultanément, vont concevoir tout un imaginaire textuel et musical autour de thématiques très spécifiques, notamment effectivement l'occultisme, un peu de satanisme aussi par endroits, et ça a conduit dans certains cas à quelques dérives, mais il faut pas oublier que c'est une musique aussi avec une esthétique très spécifique, avec la volonté d'être hors du marché on va dire classique de la musique, avec la volonté de s'enregistrer avec des moyens très 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 peu qualitatifs, avec ce qu'on appelle un enregistrement lo-fi. Et c'est intéressant parce que si au début c'était aussi une question de moyens, parce que c'est beaucoup plus facile d'enregistrer sur une cassette que de s'enregistrer dans un studio avec des moyens très 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 importants, encore aujourd'hui cette pratique là de s'enregistrer sur cassette est utilisée. On pense notamment à un groupe qui s'appelle Harakiri for the Sky, qui a sorti un album très récemment encore sur cassette. Ça participe aussi d'un autre mouvement très intéressant, me semble-t-il, dans le métal, qui est ce qu'on appelle le tape trading, qui consiste à envoyer les cassettes que l'on enregistre à d'autres groupes ou d'autres fans à travers le monde. Voilà, c'est une façon de diffuser cette musique, diffuser aussi un certain nombre d'images. Alors, et qui est propre à ce sous-genre.
Bon, le black metal, rien à voir avec les musiques noires, hein, on est d'accord. On se dit souvent, le métal, c'est une musique de mecs. Et c'est une musique de blanc, et ben il y a quand même quelques contre-exemples. We'll be right back. Walk With Us, c'est le groupe togolais Arkan Asrafokor, un nom qui signifie le poids du guerrier en langue. Et oui, ils sont nombreux, Milan Garcin, les groupes de métal sur le continent africain?
Ils sont très nombreux, et ils sont pas seulement nombreux sur le continent africain, ils sont nombreux partout dans le monde. Ce qui est extraordinaire avec cette musique métal, c'est qu'elle a une capacité d'adaptation extraordinaire, elle aussi. Et en fait, chacun des continents va avoir un certain nombre de groupes qui va construire quelque part une... voilà, une musique qui va mêler les principes du métal occidental, pourrait-on dire, avec un certain nombre d'instruments traditionnels, avec des thématiques locales, et va répondre à un certain nombre d'enjeux, que ce soit à la fois la défense d'une culture, d'une minorité en particulier, ou tout simplement voilà, de construire un nouveau genre à part entière. Alors Arkan Asrafokor, c'est un très bon exemple, puisqu'ils vont utiliser notamment des percussions traditionnelles, et puis voilà, des thématiques dans leurs textes qui font référence à voilà, leur mythologie locale, mais c'est le cas d'autres groupes aussi à travers le monde. Ils sont très nombreux.
Oui, il y a une série de photos qui nous emmène aussi au Botswana.
Oui, au Botswana, où dans les années 70, un certain nombre, voilà, il y avait quelques Américains qui étaient arrivés avec dans leur bagage la musique métal, et puis ça a essaimé petit à petit jusqu'à ce qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, apparaisse une véritable scène métal qui s'appelle le Maroc, M-A-R-O-C-K, et donc qui a été photographiée notamment par Frank Marshall et Paul Chakalis, deux photographes sud-africains qui sont allés voilà, montrer notamment le public de cette scène-là avec des groupes phares comme Overthrust, par exemple, auquel Arkan Asrafokor fait souvent référence d'ailleurs.
Avec aussi des photos des Queens of Maroc, donc ce sont des artistes ou c'est le public ?
C'est le public.
C'est le public.
C'est le public qui est, voilà, qui est représenté dans ces photographies un petit peu à la Malik Sidibé, comme ça, avec oui. des fonds de studio très spécifiques, très frontales, et puis en même temps qui s'habillent avec des t-shirts de Cannibal Corpse, par exemple. Donc, c'est formidable de voir un petit peu ces syncrétismes culturels, quelque part.
Il y a une vraie place pour le public féminin dans le métal, Jessie Dobert. Particulier au Hellfest, par exemple. Vous parliez, le Hellfest, c'est pas seulement des métalheads avec une grande barbe et des gros muscles.
Oui, le public est assez féminin. Bon, on n'est pas encore sur des proportions non plus 50-50, mais de plus en plus, oui. Enfin, oui... Oui, la femme a tout à fait sa place dans le métal, autant dans le public que sur scène.
Alors, on parlait d'Arkan Asrafokor à l'instant, c'est l'un des groupes qui développe aussi un engagement pour la nature, pour la paix, engagement écologique, assez présent d'ailleurs dans l'ensemble de cette exposition. C'est un élément constitutif du métal, on le disait au tout début. Aujourd'hui, pour quelle cause les groupes de métal se mobilisent-ils, Milan Garcin?
Alors, vous venez de parler de l'écologie. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupes qui s'y engagent très fortement. On pense notamment aux Français Gojira, qui sont peut-être le groupe qui a le plus marché dans l'histoire du métal français, notamment à l'international, qui ont longtemps collaboré avec Sea Shepherd, par exemple. Il y a aussi des ONG...
Sea Shepherd, qui est un grand mouvement de protection des océans.
Exactement. D'ailleurs, un certain nombre de textes... textes et d'images de Gojira y font référence. Il y a d'autres ONG aussi qui sont directement montées par des acteurs du métal. Je pense notamment à Savage Lands, qui est une ONG montée par Sylvain Demercastel et Dirk Verburen, du groupe Megadeth, où l'enjeu est de favoriser la reforestation au Costa Rica, par exemple. Voilà, c'est l'un des enjeux de ces engagements. Il y a aussi quelques pionniers, notamment en France. Je pense au groupe Lofofora, qui était l'un des premiers dans cette scène en France, en tout cas, à parler des VSS, donc des violences sexuelles et sexistes, et puis aussi voilà, d'être engagé notamment contre le Front National et le négationnisme à une époque où ça faisait évidemment l'actualité.
Oui, donc autrement dit, le métal tendance limite facho, c'est un mythe ?
C'est totalement un mythe. On est dans une population où on parle d'à peu près 4% du public, je crois, dans les études statistiques, qui se déclarent être d'extrême droite. Si l'on rapporte ça aux intentions de vote de la population générale, on peut facilement s'apercevoir que c'est plutôt une musique de gauche.
Merci beaucoup à tous les trois, Milan Garcin, Jessie Dobert et Adrien avait de Fortifem. On va se quitter justement avec un peu de métal français et Gojira qui sera en concert à la fin du mois d'avril à l'Ocean Fest de Biarritz qui a lieu les 26 et 27 avril. Quant à l'exposition Metal Diabolus in Musica, je rappelle qu'elle est à l'affiche du Musée de la Musique et la Philharmonie de Paris jusqu'au 29 septembre. Amazonia Gojira pour clore ce nouveau numéro de VMDN. Restez avec nous dans un instant, le journal en français facile sur RFI. À demain avec le dessinateur Manuel Arsenet qui adapte en bande dessinée chez Dargaud La Route, le chef-d'œuvre de Cormac McCarthy, et vous m'en direz des nouvelles.